Bonjour à tous, vous écoutez les Pipelettes.
Au micro, Miako et moi, Laure. Aujourd'hui, nous allons vous raconter trois faits méconnus qui se sont déroulés un 15 décembre.
Laure nous dira tout sur Walt Disney, mort le 15 décembre 1966. Et je finirai par vous présenter Gustave Eiffel, né le 15 décembre 1852.
Très beau programme en perspective. Les Pipelettes, c'est tout de suite. À toi, Miako. Aujourd'hui, tu nous présentes le fameux constructeur de l'emblème de la France, non ?
Oui. Aujourd'hui, le père fondateur de la Tour Eiffel est né. Alexandre Gustave Eiffel est né le 15 décembre 1832 à Dijon et meurt le 27 décembre 1923. Il entre à l'école centrale de Paris pour y étudier la chimie. Une fois son diplôme à la main, il s'intéresse à la métallurgie et a l'occasion de travailler dans ce secteur grâce aux relations de sa mère. Il finit par être embauché chez Charles Nepveu, un ingénieur constructeur de machines à vapeur qui fait aussi du matériel pour le chemin de fer. Eiffel devient chef de bureau des études un an plus tard, en 1857. Son premier grand projet sera la construction du pont de Bordeaux d'une longueur de plus de 500 mètres. Il n'est alors âgé que de 25 ans. Dès lors, il sera chargé de plusieurs autres ponts de la région du Sud-Ouest. En 1867, il crée sa propre société et réalise diverses constructions qui vont augmenter sa réputation en France comme dans le monde.
Avec ou sans, c'est pareil. C'est vraiment n'importe quoi. Mon cœur se vide, Paris s'éveille. Tu m'aimes mal et j'ai froid. C'est pas malin de penser à toi. En haut de la Tour Eiffel, j'ai vu la fin du film. J'aime bien les drames, mais là, je crois que je vais rentrer chez moi. Je te quitte.
Durant les décennies 1870 et 1880, la compagnie Eiffel est à son apogée et se retrouve sollicitée dans le monde entier. Les ouvrages de construction sont de plus en plus complexes. Nous pouvons notamment citer la Statue de la Liberté à New York, pour laquelle Gustave Eiffel a pensé toute l'ossature pour soutenir le poids de la sculpture de Bartholdi. Et nous retrouvons bien évidemment la réalisation de ce qui est devenu le symbole de la France, la Tour Eiffel. Gustave Eiffel a une idée osée. Il décide de présenter à l'exposition universelle de 1889 une tour de plus de 300 mètres de haut, entièrement construite de fer. Malgré de vigoureuses critiques, le succès sera immédiatement au rendez-vous et la tour subsistera alors qu'il était au départ prévu de la détruire 20 ans après sa construction. Gustave Eiffel est particulièrement connu en tant qu'ingénieur, mais souvent oublié pour son esprit scientifique, alors que ce dernier se retrouve dans son travail d'ingénierie. Il a par exemple réalisé une soufflerie aérodynamique au Champ de Mars en 1909, qui sera déplacée en 1911 dans le 16e arrondissement pour avoir un laboratoire de recherche plus important. Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce Eiffel, un film réalisé par Martin Bourboulon en 2021, qui vous transportera au Paris du 19e siècle et plus particulièrement à la construction de la surnommée Dame de Fer.
C'est moche.
On peut monter jusqu'à 200 mètres.
L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres.
En somme, c'est ça qui montera le plus haut.
Mais vous êtes qui ? Gustave Eiffel.
T'as pensé l'exposition universelle ?
Je vais pas recommencer. vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien et qui va falloir démonter juste après.
Vous avez réponse à tout.
La vie m'a appris à me méfier des surprises.
Bonsoir. Regarde-moi.
J'espérais ne jamais vous revoir.
Eiffel ?
Oui, pardon.
Vous pourriez avoir des idées sur le sujet du concours ?
Il faut voir plus libre. Plus audacieux.
Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit ?
Lui-même.
Je te parle pas d'amour. Je te parle de réputation.
Vous voyez trop grand,
trop haut.
Tout Paris est contre nous. J'en sont même à compter le nombre de morts que la tombe va faire en s'effondrant.
L'envent ! Bougez-vous les oreilles !
Et le scandale. J'ai pensé au scandale.
Ce que nous allons entreprendre, personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. Cette tour, les gars, c'est celle de la France. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever.
Laissons place à Laure qui va nous parler d'une figure historique connue de tous.
Merci Miyako. En effet, je vais aujourd'hui vous parler de quelqu'un de mondialement connu, dont vous avez déjà profité de ses œuvres, que ce soit lors de votre tendre enfance ou tout au long de votre vie. Mais avant de vous révéler son nom, écoutez ce début de son succès à travers le générique connu par les plus forts. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit du sifflement de Mickey Mouse lors de ses premières apparitions dans le monde télévisé. Aujourd'hui, nous allons donc parler de son créateur, Walt Disney, né le 5 décembre 1901 et mort le 15 décembre 1966, il y a aujourd'hui, jour pour jour, 57 ans. Mais qui était-il réellement, ce génie de l'animation qui a eu un succès tel qu'aujourd'hui encore son art soit renommé, qu'il ne cesse jamais de se faire connaître aux quatre coins du monde, avec ses parcs Disneyland que l'on retrouve en France, au Japon, en Floride, en Californie et même en Chine. Qu'il ait des boutiques de produits dérivés de ses films partout dans le monde et qu'il enrichisse les pays et émerveille grands et petits. Eh bien, rien de tout cela ne serait présent si, en 1922, Walt Disney ne s'était pas lancé dans le court-métrage pour enfants. Il le fait aux côtés de son frère Roy. Et depuis Hollywood, il crée les studios Disney, avec pour premier personnage à succès, le lapin Oswald. Rapidement, ce lapin va devenir un animal proche de la souris, qui n'est autre que Mortimer Mouse, très vite renommé Mickey Mouse. Ses apparitions vont vivre au rythme du progrès cinématographique de l'époque, passant de muet à sonorisé, puis de noir et blanc à coloré. Dans les années 1930, Mickey devient une star sur papier comme sur grand écran, avec ses films et bandes dessinées. Et de nombreux personnages arrivent dans ses aventures, dans lesquelles on retrouve Donald Duck, Dingo ou encore Pluto. Disney ne s'arrête pas là. Dans ses studios, il crée des films qui ont bercé notre enfance. Le premier est Blanche-Neige, en 1937, qui est vite suivi de Pinocchio, puis de Bambi. Et puis, les années de guerre arrivent, et malgré les horreurs qui se déchaînent et la tension qui ne cesse d'augmenter, les studios continuent à tourner et sortent Dumbo, Alice au Pays des Merveilles ou encore Peter Pan.
Dans le vent,
sous la planète d'argent,
décolle et bat.
À côté de ces films pleins de tendresse et d'innocence, Disney ne manque pas de revendiquer une propagande anti-nazie à travers un court-métrage, Der Führerface, datant de 1943 et qui n'a jamais été doublé en France, on se demande pourquoi, où Donald fait un cauchemar se retrouvant à vivre sous le nazisme. On retrouve en long-métrage le film Victoire dans les airs, qui vise à sensibiliser les Américains sur la Seconde Guerre mondiale et mettre en avant la force aérienne américaine. Une fois la guerre finie, les studios Disney sortent Cendrillon en 1950, puis débutent les films en images réelles, tout en commençant à être présents sur la télévision. Et entre tous ces films, avec tout le succès qu'ils décrochent, Walt Disney a dans sa tête un projet auquel il tient beaucoup, celui de créer un parc d'attractions dans lequel son univers imaginaire serait présent. C'est de là que naît le premier parc Disneyland en Californie, une véritable source de revenus qui lui permet d'avoir des productions de plus en plus qualitatives. En 1964, même année que la sortie de Mary Poppins, le projet atteint une nouvelle étape, car une version améliorée de Disneyland prend forme, comprenant en plus de l'univers, des hôtels, restaurants, golf et tout ce qui mettrait la clientèle à son aise pour mieux profiter du parc. Mais malheureusement, le grand, le fameux, le fantastique Walt Disney meurt le 15 décembre 1966 suite à un cancer de poumon dû à sa passion pour les cigarettes. Alors morale de l'histoire, ne nous privez pas de votre génie à cause des cigarettes. Mais finalement, qu'est-ce qui fait de lui un si grand cinéaste qui marque encore aujourd'hui toutes les générations? C'est en premier lieu, évidemment, les histoires mises en scène. Mais ça ne s'arrête pas là. Les dessins sont beaux et travaillés, les couleurs varient pour créer différentes sensations, les scènes bleues et sombres présentent souvent de tristes nouvelles, tandis que les scènes joyeuses vont être pleines de couleurs chaudes. Et le dernier point, mais pas le moindre, est celui de la musique. Les bandes-sons des films Disney sont de véritables chefs-d'œuvre parce que Walt était un grand mélomane, prêt à investir la moitié du budget dans les musiques et mélodies. Les compositeurs étaient donc de talentueux artistes, et cela a produit un véritable marketing de la nostalgie. Parce qu'il suffit de réentendre ces mélodies entêtantes une fois adulte pour fredonner ces morceaux qui ont bercé notre enfance. Faites-en l'essai avec son dernier chef-d'œuvre, Le Livre de la Jungle, sorti quelques mois après son décès.
Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant, je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, pourrais-je le croire, être parfois bien plus humain que vous.
Laure, il faut y aller. Eh oui, c'est déjà la fin de notre émission. Mais ne vous inquiétez pas, car nous serons bientôt de retour pour de nouveaux événements, et cette fois-ci, accompagnés de Louise. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site www.radiolfb.net. Laissez des commentaires, abonnez-vous et téléchargez notre programme.
Nous vous laissons avec Nara par Sofiane Pamard.
Au revoir, bonne semaine et joyeuses fêtes de fin d'année.